Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. T left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie. Omaha.
Quick going.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah!
Bonjour à toutes et bonjour à tous, et bienvenue sur votre podcast Touchdown Actu, votre nouveau rendez-vous du samedi. Vous l'avez bien compris, on va parler de fantasy. Nitinia Simyong au micro, et il est de retour avec moi après 2 semaines d'absence, mais il est motivé et prêt aussi à faire son équipe pour battre son adversaire de la semaine. C'est Antoine Ajavon alias Tonio. Comment ça va, Tonio?
Ça va très bien, Niti, et toi?
Eh ben, ça va, merci. Eh ben, figure-toi que la semaine dernière, Tonio, moi, j'ai passé une très, très belle semaine. J'ai notamment mis plus de 200 points à un adversaire. Merci notamment à Jordan Addison, qui a mis 2 touchdowns contre les 49ers. Ça, c'était inattendu. Voilà. Et toi, comment s'est passé cette semaine numéro 7?
Écoute, ben, moi, comme toutes les semaines, c'est mitigé parce que j'ai plusieurs ligues et je mets jamais tous mes œufs dans le même panier. Donc, forcément, il y a des ligues où ça marche un peu mieux que d'autres. Mais parmi celles où ça a très bien marché, je dois remercier notre ami Miles Garrett qui m'a sorti un scoring pas possible. Tu t'attends jamais à ça avec un défenseur en général. J'ai une ligue notamment, il m'a fait 44 points, c'est plus que tous mes autres joueurs, donc magnifique. Merci Miles Garrett, merci la défense des Browns.
Et ouais, Miles Garrett d'ailleurs est le joueur de la semaine 7 cette semaine, tout comme Lamar Jackson qui sera l'un de nos thèmes de la semaine. D'ailleurs, tu sais, Tonio, c'est quoi la bonne nouvelle de cette semaine numéro 8 qui arrive? Est-ce que tu sais c'est quoi?
Je sais pas, attends, vas-y, tu vas me surprendre.
Et ben, c'est qu'il n'y a aucune équipe en semaine de repos.
Exact, oui, exact, exact.
Oui. Et oui, donc vous pouvez mettre tous vos meilleurs joueurs sur le terrain, donc en flex, en quarterback, running back, tight end. Donc vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, mais ne vous réjouissez pas trop vite, puisque il y a toujours des joueurs clés blessés. Justin Jefferson ne va pas revenir, Devon Aiken non plus. Et puis surtout, on a appris il y a quelques jours, voire même quelques heures. Peut-être qu'il sera là demain face aux Patriots, on sait jamais. Mais Tyreek Hill pourrait être absent.
Et ça, ce serait un gros coup dur pour les Dolphins. Hein, et c'est le receveur numéro 1 de toute la ligue. Alors, d'un point de vue purement footballistique, mais surtout d'un point de vue fantasy en ce qui nous concerne. Donc, ouais, grosse info.
Voilà, grosse info. Donc, on va pas le développer parce qu'en fait, on n'a pas trop d'infos. Donc, on sait pas trop par qui le remplacer aussi, mais ouais, c'est vraiment une mauvaise nouvelle pour débuter ce podcast fantasy. Mais après, on a que des bonnes nouvelles à vous annoncer. En tout cas, il faut aussi surveiller les échanges en trade avant la trade deadline. On va en parler de la trade deadline lors du fauteuil demain, présenté par Alain Mattei. Mais à surveiller également, ce sera sans doute notre thème de la semaine prochaine sur les échanges et voir quel joueur pourrait avoir peut-être un impact fantasy encore plus énorme que celui qu'il avait lors des semaines précédentes. Alors, le programme du jeu, Antoine, après cette intro très très longue, on va dire, le cas Lamar Jackson, donc le quarterback des Ravens, Les running backs Austin Eckler et Alvin Kamara, ils ont tous les deux 28 ans, mais peut-être qu'ils sont peut-être dans leur fin de carrière et peut-être en fin de carrière fantasy également. Et puis, les Titans Superstars sont-ils de retour pour terminer cette émission fantasy? Donc, je vais te lancer tout de suite sur Lamar Jackson, Tonio. La question est la suivante, tout simplement. Donc, est-ce que Lamar Jackson, c'est le quarterback qui va faire gagner votre fantasy si vous êtes en course pour les playoffs? Ou qui va peut-être vous faire remonter au classement si vous êtes largué?
Bah, tout à fait. Alors, la réponse est clairement oui. Alors pourquoi Lamar Jackson, on ne peut pas le dissocier de l'ensemble de l'attaque des Ravens, à mon avis. On en a beaucoup parlé pendant l'intersaison, beaucoup de changements avec un nouveau coordinateur offensif, avec de nouvelles cibles. Et enfin, des joueurs en bonne santé. Et c'est ce qui change tout pour cette attaque. Alors, d'abord, le changement de philosophie avec un jeu plus moderne, avec plus de passes. C'est vrai que c'était assez frustrant de regarder l'attaque des Ravens, j'allais dire la saison passée, mais pas que. Quasiment toute l'ère Lamar Jackson, à part sa saison MVP où il a un peu tout porté sur ses épaules. Là, enfin, on a une attaque au standard moderne de la NFL. Ça a mis un peu de temps à démarrer, avec, on va dire, des coups de bien, des coups de moins bien, notamment dans la red zone, où il y avait une réussite incroyable sur les premières semaines de la saison, sans trop vraiment que les appels de jeu correspondent à l'efficacité de ces jeux en red zone. Ça a heurté un mur contre Pittsburgh, et enfin, la semaine passée contre Detroit, on a l'impression que tout s'est mis en place. C'est-à-dire qu'on a des appels de jeu où enfin, Lamar Jackson n'est pas que, hein. Encore une fois, l'ensemble de l'attaque des Ravens, tout le monde est sur la même ligne, tout le monde est sur la même longueur d'onde. Les appels sont là, l'efficacité est là, et j'ai envie de dire que, ben enfin, c'est parti. Cette attaque dont on a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé, elle montre des signes de domination, tout simplement. Donc, est-ce que Lamar Jackson va être celui qui va faire gagner la Ligue? Tant qu'il est en bonne santé, tant que ses cibles et sa ligne offensive est aussi relativement en bonne santé, ma réponse est clairement, clairement oui.
Justement, par rapport à des quarterbacks comme Patrick Mahomes, comme Josh Allen, voire même Jalen Hurts, est-ce que maintenant on peut considérer que Lamar Jackson est un quarterback établi d'un point de vue fantasy? On n'a qu'à regarder ses stats, hein, effectivement, quasiment 70% de complétion de passes et surtout déjà 8 touchdowns à la passe plus 5 à la course. Déjà qu'il était un quarterback double menace, si en plus il arrive à mieux utiliser son bras et à mieux utiliser ses jambes, il peut être même au-dessus de des trois que je viens de citer auparavant.
Bah ouais, et honnêtement, les trois que tu as cités, c'est les seuls qui, pour ce début de saison, entrent dans la même conversation, que Lamar Jackson. J'ai une stat que j'ai lue, et je te jure que quand je l'ai vue, j'ai failli tomber de ma chaise, contre Detroit la semaine passée. Sur les 20 premiers jeux, il y a 16 qui étaient des jeux de passe. Alors tu vas me dire, ah ouais. 80% de jeux de passe, c'est
pas,
beaucoup.
C'est pas Baltimore, ça, surtout.
Merci, c'est pas Baltimore. Mais, en fait, je ne l'ai pas réalisé tout de suite en lisant la stat, mais c'est en dessous de cette stat que j'ai vu l'explication. Jamais depuis que Lamar Jackson est le quarterback des Ravens, Baltimore a commencé un match avec 80% de passe.
Ah ouais, jamais. C'est fou. C'est vrai que c'est fou et tu as raison.
Et plus que ça, depuis l'année 2000, il y a pas mal de quarterbacks qui sont passés depuis l'année 2000 à Baltimore. Depuis l'année 2000, c'est le troisième taux le plus élevé pour démarrer un match. Je dis, mais comment c'est possible qu'une franchise ne démarre pas un match avec 80% de passes? Mais c'est fou. Et surtout sur ces 16 passes pour commencer le match, énormément de réussite. Et c'est ce qui change tout. C'est-à-dire qu'il a toujours cette menace à la course. Et si maintenant il y a l'efficacité à la passe, il est clairement un top 3, top 4 quarterback en fantasy.
Et j'ai envie de dire qu'il court même moins parce qu'il a fait seulement un match à plus de 100 yards à la course. Là, c'est plus du 9 courses pour 36 yards. Là, c'était contre Détroit. Mais il court vraiment moins. Je pense que Todd Monken, qui est le coordinateur offensif des Ravens, l'a vraiment bien encadré. Et moi, je connais plutôt pas mal Todd Monken parce que c'était le coordinateur offensif de l'Université de Georgia, qui est quand même double champion universitaire. Ça pose quand même un homme. Et puis, donc là, cette semaine, il va affronter les Cardinals d'Arizona. Bon, on peut penser que normalement, ça devrait être tout bénef en termes de points. Ouais. Tout bénef en termes de points, pour pas dire facile. Mais en tout cas, les joueurs fantasy qu'ils possèdent peuvent se reposer sur leur laurier.
Ouais, non, mais complètement, complètement. Et puis, enfin, il y a une flopée de stats hein, qui confirme ça. Une autre, c'est que c'est le leader en termes de yards par passe complétée. Lamar Jackson. Lamar ouais, Jackson, dont on disait, à tort, c'est pas moi qui le disais, parce que moi, j'ai toujours été un de ses défenseurs. Il a toujours été un bon passeur, même à l'université. Mais ce qu'on entendait souvent, la rengaine, c'était « Ah, mais c'est un mauvais passeur, il a que ses jambes ». Cette saison, ça fait que 6 matchs. On va voir si ça se confirme. Mais c'est le leader en termes de yards par passe complétée avec 18,2. Devant Matthew Stafford et devant Patrick Mahomes, qui sont parmi les voilà, qui sont parmi les meilleurs purs passeurs de l'histoire. Donc voilà, comme tu disais pour Ted Monken, en ce qui concerne Lamar Jackson, ça te place un homme aussi.
Voilà, donc Arizona contre Baltimore, donc ce sera dimanche et je crois que c'est à 18h, donc il faut faire attention aussi à l'heure quand vous faites votre équipe fantasy. Ce n'est plus avant 19h, c'est avant 18h le dimanche pour valider les premiers joueurs qui vont jouer lors de la red zone de dimanche soir. Les running backs Austin Eckler et Alvin Kamara. Alors là, Antonio, on a deux problématiques. Alors deux problématiques, pas tellement, puisque le running back des Chargers est aujourd'hui un problème, peut-être pour les joueurs fantasy. On sent qu'il est sur la pente descendante. Alors Austin Eckler, depuis le début de la saison, c'est seulement 4 matchs et pas des statistiques ronflantes, on va dire, en ce qui le concerne. Mais en tout cas, le running back des Chargers est en difficulté. Et c'est peut-être tout l'inverse pour Alvin Kamara, qui a quasiment été l'un des rares joueurs à être au niveau face aux Jaguars de Jacksonville. Donc... par rapport à ces deux joueurs, est-ce que on garde l'un des deux? Est-ce que Austin Eckler et Alvin Kamara peuvent être sur le banc cette semaine en fantasy? Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces deux joueurs aujourd'hui pour cette semaine numéro 8?
Mais on parlait en début de podcast de mes fortunes fluctuantes la semaine passée. Il y a une ligue où Austin Eckler est le joueur sur qui j'avais tout misé. Et comme beaucoup de joueurs de fantasy, malheureusement, cette saison, la santé ne suit pas. Et c'est une des inquiétudes qu'on avait concernant ce joueur, parce que ces 3-4 dernières saisons, il était énormément utilisé. Alors forcément, on a moins l'impression que c'est le cas par rapport à, par exemple, un Nick Chubb ou un Derrick Henry, qui, eux, sont moins portés sur le jeu aérien. Lui, comme toutes ses touches sont un peu divisées entre le jeu de passe et le jeu au sol, on n'a pas forcément l'impression qu'il est très utilisé, mais il est extrêmement utilisé. Et là, le corps ne suit plus tout simplement depuis le début de saison. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit... ça en dise beaucoup sur son niveau intrinsèque. Je ne pense pas qu'il soit sur la fin de sa carrière. Il n'empêche que pour cette saison, ça a l'air très mal parti, surtout qu'il est sur une dernière année de contrat, donc il a à cœur forcément d'être sur le terrain. S'il n'est pas sur le terrain, alors qu'il a tous les motifs pour être sur le terrain, ça veut dire que vraiment... il peut pas, tout simplement.
Alors soit il peut Est-ce pas, soit... Peut ouais, soit il peut, pardon, excuse-moi de te couper, soit il peut pas,
vas-y.
Soit il y a quelque chose qui ne va pas finalement dans le système offensif des Chargers, c'est aussi peut-être pour ça. Contre Kansas City, là, la semaine dernière, 14 courses, mais seulement 45 yards, et il y a deux semaines contre les Cowboys, là, c'était 14 courses également, mais 27 yards, soit quasiment 2 yards par portée, c'est pas beaucoup pour un joueur qui a quand même pesé 18 touchdowns l'an dernier. Moi, j'ai envie de te dire que, alors Austin Eckler n'est peut-être pas sur la pente descendante, mais j'ai envie de te dire, en plus, contre Kansas City, c'est même Joshua Kelly qui a mis un touchdown de plus de 60 yards face à cette équipe. Donc, est-ce que Kellen Moore, le nouveau coordinateur offensif, qui aime bien fonctionner par comité de coureurs, ne fait pas la même chose qu'il a fait avec Ezekiel Elliott pour dire que Joshua Kelly, maintenant, c'est le nouveau Tony Pollard?
Alors, je suis pas dans sa tête, mais effectivement, de tous les indices qu'on aperçoit ces dernières semaines, ça en a tout l'air. Mais je reste quand même persuadé que tout ça est dicté par la santé d'Austin Eckler. C'est-à-dire que si Austin Eckler était en bonne santé, je pense qu'il aurait beaucoup moins d'hésitation à l'utiliser, à lui donner une plus grande partie des snaps. Là, les deux dernières semaines, en retour de blessure, certes, mais les deux dernières semaines, il n'a jamais dépassé 70% de snaps pour un joueur qui était... quasiment surutilisé les saisons précédentes, c'est assez étonnant. Donc,
voilà, est-ce donc, que, voilà ouais, donc vas-y. Face aux Chicago Bears, la semaine qui arrive, donc ce week-end là, c'est l'aubaine quoi pour se relancer, puisque la défense de Chicago, bon, on le sait, hein, elle est pas si impressionnante que ça. Donc c'est le moment peut-être de remonter un peu la pente et pour que les joueurs fantasy aussi puissent lui faire de nouveau confiance.
Je souris pour ceux qui nous écoutent
ouais.
parce que
ouais, je vois ça.
Parce qu'on est,
je vois ça.
On n'est pas encore en vidéo,
ouais.
mais au moment où tu dis ça, je lis une news le concernant Jeff Miller du Los Angeles Times qui dit que Austin Eckler est sorti de l'entraînement en boitant hier.
Oh là là, donc, oh, c'est pas vrai.
Voilà,
pile poil au bon donc, moment, c'est magnifique.
C'est ça. Est-ce que ça va être la semaine? Écoute, sur le papier, oui, mais encore une fois, il faut qu'il soit sur ses deux jambes et en bonne santé, quoi.
Et puis de l'autre côté, on a un joueur qui est peut-être en train de monter en puissance, c'est Alvin Kamara. Alors il était suspendu les trois premiers matchs, mais depuis quelques semaines et notamment les deux dernières semaines, allez on va dire surtout la semaine dernière, c'est beaucoup mieux. On l'utilise beaucoup plus sur les systèmes en passe écran du côté des Saints, alors que pourtant l'attaque des Saints. C'est tellement une référence cette saison, et je suis ironique évidemment en disant ça, mais quasiment 133 yards pour lui dans ce match face aux Jaguars. Est-ce qu'il peut continuer sur sa lancée dès la semaine prochaine? Il sera chez les Colts d'Indianapolis.
Bah encore une fois, l'exercice est un peu compliqué parce qu'on n'est pas devin, mais on se sert des indices qu'on voit sur les semaines passées. Et effectivement, la réponse, c'est on a envie de dire oui, et on a envie de dire un grand oui même, parce que ces trois semaines de suspension, je pense, lui ont fait du bien. Je parle du corps, peut-être même à la tête, on ne sait pas, faudra lui demander. Mais en tout cas, au niveau du corps, il est arrivé, mais frais comme un gardon. Et puis ça se voit sur le terrain. Il a cette giclette, comme on dit. Il a ce petit plus, ce petit boost qui fait qu'il a, il fait la différence assez aisément. Dans cette attaque des Saints, ils ont ramené Jamal Williams pendant l'intersaison, ils ont drafté Kendre Miller, on s'est dit, oulala, ça va partir en running back par comité.
C'est vrai.
Et, ben, au fait, non, parce que c'est clairement le meilleur joueur de cette attaque, quarterback, receveur compris. Depuis son retour, après ses trois semaines de suspension, c'est le premier running back en termes de target avec 39,
ouais, de cible,
39
ouais.
fois de cible. Mm-hmm. Et même en termes de réception, c'est le numéro 1, 35. Ça, c'est pas très étonnant. On sait que c'est un coureur qui est très porté sur le jeu aérien. Mais si tu le compares au receveur, il est même septième en termes de target et second en termes de réception depuis son retour. Donc, en fait, c'est un receveur dans la peau d'un running back. Il est excellent. Si cette attaque fonctionnait encore un peu mieux, enfin, encore un peu mieux, beaucoup, beaucoup mieux même, les stats seraient encore plus mirobolantes. Mais en termes de fantasy, c'est déjà excellent. Et oui, on peut lui faire confiance, il n'y a pas de souci, en tout cas de mon avis.
Bon, après, il a seulement un touchdown, hein. C'était contre les Patriots de New England. Est-ce que tu penses contre les Colts, il va le faire?
Ben, cette défense des Colts, que je trouve, on va dire, surprenante, parce qu'il n'y a pas de nom forcément très ronflant, mais qui montre des signes de vie, qui montre des signes de combat. Elle a quand même du mal dans le jeu aérien. Alors, forcément, l'autre pendant, c'est que bah, l'attaque des Saints, on le dit, on le répète, elle est putride. Hein, donc,
c'est vrai. Elle est plutôt, on va dire, en ralenti. C'est depuis le début de la saison. Mais après, bon, voilà, Alvin Kamara reste tout de même la valeur sûre du côté des Saints, et mm-hmm. on verra bien ce que ça va donner contre les Colts d'Indianapolis. Sachant que, on a. Je pense que Derek Carr, qui est sous pression maintenant, va plus savoir lui donner la balle. Surtout qu'un Chris Olave, qui a fait la une pour de très mauvaises raisons cette semaine, n'est sans doute absent pour ce match. On va parler des tie-in, Tonio, pour terminer ce podcast avec les tie-in superstars. Alors, c'est pas sponsorisé par Taylor Swift. Hein. Désolé pour ceux qui attendaient qu'on fasse une chanson de Taylor Swift dans ce podcast, mais on va parler de lui, Travis Kelce, hein, qui depuis deux matchs est en train de faire de gaver, on va dire, les joueurs fantasy de points et de points et de points, sachant qu'en plus qu'il a mis un touchdown contre les Chargers. Mais il n'y a pas que lui, il y a aussi Mark Andrews, il y a aussi Darren Waller qui est de retour, hein, il a mis un touchdown, il y a aussi Dallas Goedert également qui a mis même, je crois, deux touchdowns, il me semble, hein, face à l'équipe des Eagles de Philadelphie ou un, je sais plus. Mais oui. Est-ce que les quatre tie-ends que j'ai dit, est-ce qu'ils vont continuer sur leur lancée, ces quatre-là, ça y est, on remet la hiérarchie en place?
Ben, j'ai encore une fois, alors toutes tes questions, j'ai répondu oui.
Après c'est normal, hein, on est dans un podcast où il faut vraiment guider nos joueurs fantasy afin de les placer au bon moment.
Et tu l'as dit au début, hein, c'est un podcast positif.
Voilà, c'est ça.
Donc, exactement. Oui. Et pas seulement les quatre noms que tu as cités. Alors, Pardon, je vais faire un petit retour en arrière, mais pendant l'intersaison, enfin surtout avant la draft, j'avais fait un podcast avec Jean-Mi pour présenter les tight ends qui se présentaient à la précédente draft. Et pendant ce podcast, on avait mentionné le fait que, alors c'est une tendance au niveau de la ligue, que comme les cornerbacks sont de plus en plus mauvais plaqueurs, parce que forcément ils s'adaptent à l'évolution du jeu, à l'évolution des règles, il n'y a plus trop besoin de tacler. De plaquer. Il n'y a pas besoin d'être aussi physique que par le passé, mais peut-être que offensivement les coordinateurs offensifs et les coachs se disent bah, tiens, il y a peut-être un truc à faire avec des tight ends qui sont en fait des grands receveurs plus costauds, qui savent aussi courir, peut-être pas des flèches à proprement parler comme des receveurs purs, mais qui savent aller assez vite et surtout qui sont impossibles à plaquer par des cornerbacks à qui on n'apprend plus vraiment à faire cela. C'est peut-être la tendance au niveau de la Ligue. Et cette tendance a tendance à se confirmer de ce qu'on voit. Alors évidemment, il y a Travis Kelce, c'est la référence. On dit beaucoup, on entend beaucoup depuis le début de saison, mm-hmm. « Ah, mais les Chiefs, il n'y a pas de receveur numéro un. » Ben, si, il y en a un.
Oui. Il a juste c'est un tight end, c'est pas un wide receiver, c'est un tight end. Ouais.
C'est ça. Mark Andrews, c'est la même chose. On peut citer aussi TJ Hockenson pour Minnesota, surtout avec l'absence de Justin Jefferson. Et franchement, il y en a une flopée. Darren Waller, même Sam Laporta, le rookie, Dallas Goedert. Et tous ces tight ends qui ne sont pas forcément très utilisés dans le jeu de protection parce que ce n'est pas leur force, ils sont énormément utilisés dans le jeu aérien.
J'ai une question d'ailleurs pour toi. D'ailleurs, imagine, tu as une équipe avec deux flex comme joueur à mettre. Est-ce qu'un tight end serait judicieux?
Ça dépend lesquels, mais effectivement, si on a un Kelce, on a un Andrews, on a un Waller, on a même Evan Ingram pour les Jags, qui, alors lui, il fera pas forcément des matchs à 20-25 points, mais si on a besoin de 15, de 16 points, ça peut complètement marcher. Alors, c'est un risque à prendre. Si on a d'autres receveurs des vrais receveurs cette fois plus confirmés, ou même des coureurs dont on est sûr et certain qu'ils vont faire 16, 17, 18 points, et qu'on préfère ne pas prendre de risque, autant aller sur ses valeurs sûres. Mais si on se sent un peu joueur, let's go. Il y a franchement, il y a une douzaine de tight ends qui valent le coup de prendre ce risque.
Bon, en tout cas, pour cette semaine numéro 8, quel tight end va marquer le plus de points, à ton avis, lors de cette semaine qui sera, on va appeler, les équipes ne sont pas en semaine de repos. Toutes les équipes jouent.
Les équipes jouent. Mais tu sais quoi, là, je prends mon calendrier en même temps que tu me poses la question. Je vais pas dire Travis Kelce.
Ah bah c'est trop facile. Non
mais si encore une fois sur cette prise de risque, il y a un risque à prendre. Moi, je tenterai Dalton Schultz.
D'accord.
Avec les Texans parce qu'ils affrontent Carolina qui est une
très
équipe
judicieux.
En grande difficulté. Alors, pour le coup, il y a des receveurs qui marchent très bien du côté des Texans, Nico Collins, Tank Dell, ça marche bien. Mais voilà, CJ Stroud, on voit que c'est pas un quarterback coureur du tout, ça l'a jamais été d'ailleurs à l'université non plus. Il passe, donc il y a forcément des ballons à attraper. Dalton Schultz contre Carolina, ce serait mon pari de la semaine.
Et ben, on va terminer sur ce pari de la semaine, notre podcast fantasy. En tout cas, Tonio, merci de tes conseils. On espère que voilà, certains joueurs fantasy vont les appliquer à la lettre. En tout cas, vous êtes toujours aussi nombreux sur les réseaux sociaux à nous suivre, à TDActu sur X, Twitter, TikTok, Facebook, et également Tâche d'un Actu en entier sur Instagram. Vous pouvez laisser des commentaires sur ce podcast, mais aussi sur les autres podcasts, les débriefs, les previews, la draft également, et puis peut-être aussi, et puis le fauteuil demain avec Alain Mattei. Tonio, merci beaucoup.
Merci à toi, à très vite.
Oui, à très vite, et bon match à toi surtout, hein, et bon match à tous pour vous, fans de fantasy, que le meilleur gagne. Moi, vous me retrouvez sur les antennes de TDA, toute l'actualité de la NFL, c'est sur TDA. À bientôt, salut.
Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDA-tu. Le mardi, le jeudi, tel gâteau risotto, les meilleures recettes en TDA-tu.
Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Procas Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.